Voilà donc qui ouvre tout droit à la deuxième partie de cette conférence de presse, la séance questions-réponses. Ici à Kinshasa, la salle est pleine, j'allais dire bondée de journalistes. Je vois qu'à Goma c'est moins bondé, mais il y a autant, il y a presque autant de journalistes à Goma. Nous allons commencer ici à Kinshasa par la droite, par la gauche. Commençons par la droite.
Nike Zumuzani d'Afrikeko.ch. Nous sommes un peu stupéfaits d'entendre le porte-parole du gouvernement qui venait de déclarer que le désespoir des Nations Unies qui sont enlevées n'était pas signalé, n'était pas connu des autorités congolaises. Donc leur présence est une présence clandestine. Qu'en dites-vous ?
Merci. Merci pour la question qui nous permet effectivement de revenir sur ce qui s'est passé ces derniers jours, notamment à Kananga. Il faut dire que deux membres du groupe des experts sur la République démocratique du Congo sont portés disparus, ainsi que d'ailleurs leur interprète et trois accompagnateurs qui étaient des conducteurs de moto-taxi qu'ils avaient rencontrés. Il s'agit en fait d'un groupe d'experts indépendants sur la RDC, qui sont rattachés au comité du Conseil de sécurité même, et ce groupe a été créé en vertu donc de la résolution 1533 en date de 2004. Les Nations Unies et la MONUSCO font tout ce qui est en leur pouvoir pour les retrouver, et nous travaillons dans ce sens d'ailleurs avec les autorités gouvernementales, que nous remercions de leur appui d'ailleurs. Et dès que nous aurons plus d'informations, parce que ce stade, depuis leur disparition, parce que nous insistons, ils sont portés disparus, dès que nous aurons donc un peu plus d'informations, nous partagerons ces informations avec vous. Mais pour l'instant, j'avoue que c'est ce que nous avons comme information que nous partageons à l'heure actuelle avec vous. Nous n'avons pas plus d'informations, malheureusement. Je sais qu'il y a beaucoup de confrères qui sont impatients, qui veulent en savoir plus. Nous avons reçu des coups de fil d'un peu partout dans le monde sur cette affaire. Mais pour l'instant, c'est ce que nous avons. Les recherches se poursuivent sur le terrain, tant au niveau de la MONUSCO que des forces de sécurité donc congolaises. Et une fois que nous aurons un peu plus d'informations, nous allons les partager donc avec vous. Deuxième question, peut-être nous allons rester sur la gauche ici. Vous avez le micro quelque part. Qui a le micro? Allez-y, il y a une dame juste derrière là. Ou il y a un monsieur, je ne sais pas. Voilà, présentez-vous et puis posez votre question.
Merci pour le micro, c'est Saint-Germain des Prés, pour les comptes de Congo Alelo, de sa version anglaise DRC Today. Ma question s'adresse à Charles Bambara. Les patrons de la diplomatie congolaise a déploré la guerre, je vais dire, il n'y a pas longtemps, elle est faite pour la MONUSCO de continuer à tergiverser sur le chapitre 6 de la charte tunisienne, alors qu'il y a longtemps qu'elle aurait déjà appliqué le chapitre 7. La question est de savoir qu'est-ce que vous lui répondez au moment où nous sommes dans l'expectative de la nouvelle résolution. J'ai parlé.
Le chapitre 7 ou le chapitre 6, ça dit quoi?
Le chapitre 7 parle de l'application de la force.
Et, le chapitre
et c'est moi qui pose les questions.
Et, oui,
on pose pas des questions aux journalistes.
Vous
répondez à la question.
Bon, j'espère que j'ai compris votre question qui est liée au renouvellement du mandat de la MONUSCO. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'effectivement, à la fin de ce mois, le Conseil de sécurité va se réunir pour effectivement parler de ce renouvellement ou non du mandat de la MONUSCO. Vous savez d'ores et déjà, et je l'ai dit en introduction en introduction à cette conférence de presse, le secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Antonio Guterres, a présenté déjà son rapport au Conseil de sécurité des Nations Unies, où il fait un peu le point de la situation politique, de la situation sécuritaire, des aménagements que lui, en tant que secrétaire général des Nations Unies, il voudrait voir au niveau de la MONUSCO. Et tout ce rapport est vraiment déjà sur les tables du Conseil de sécurité qui doit se réunir une fois de plus à la fin de ce mois. Et nous savons que le secrétaire général a aussi recommandé au Conseil de proroger le mandat de la MONUSCO pour un an jusqu'en mars 2018. Nous attendons vraiment les conclusions de cette rencontre, de cette session du Conseil de sécurité. Vous savez que c'est une prérogative du Conseil de sécurité de se réunir et de décider du renouvellement ou non des différents mandats des opérations de maintien de la paix à travers le monde. Ce sera le cas donc à la fin de ce mois de mars pour la MONUSCO. Attendons de voir ce qu'il en sera avant de faire des commentaires ou de... On va donc attendre cette décision du Conseil de sécurité. Mais comme j'ai dit déjà, une recommandation est faite par le secrétaire général des Nations Unies pour proroger ce mandat d'un an. Nous allons peut-être partir à Goma pour prendre peut-être une ou deux questions. Goma, s'il vous plaît, la parole est à vous. Goma, s'il vous plaît.
On m'appelle Sylvie Mazambi, je suis journaliste indépendante et membre de l'Union congolaise des femmes de médias. J'ai une question adressée au lieutenant, je crois. Une fosse commune dans laquelle on a retrouvé des ossements humains a été découverte à Boulegou, nous sommes là dans le territoire de Beni. Il y a plus d'une semaine, la société civile et la population de cette partie de la province ont demandé à la MONUSCO et aux autorités congolaises leur implication pour enquêter sur cette situation. J'aimerais bien savoir où en sommes-nous avec les résultats de cette enquête. Merci.
Colonel Hague, vous avez des éléments de réponse?
Je n'ai pas autant d'éléments, mais je pense que à notre confrère, il faut dire que elle fait allusion à Boulé et dans le territoire de Béni, où des ossements auraient été découverts. Alors, moi, je pense que si des autorités sont déjà dans. Cherchent des solutions, des voies et moyens pour résoudre les problèmes liés à ces genres de faits, moi, je crois que il est question de patienter et attendre que des réponses soient apportées à ces. Il ne nous revient pas, à nous, militaires, de donner des informations qui concernent des fausses de.
Tout à fait, colonel, vous avez raison. Il faut dire que la responsabilité première dans ce genre de situation, c'est vraiment repose au niveau national, au niveau des autorités compétentes dans ce domaine. Donc les différents ministères concernés sont en première ligne. Et si la MONUSCO ou le système des Nations Unies, si on nous demande un appui, un soutien, bien sûr que nous allons examiner dans quelle mesure nous pouvons soutenir cette demande de collaboration, de coopération avec les autorités compétentes dans le cadre de ces fosses communes découvertes ici et là, notamment à Bouléoussa, comme vous le dites. Donc nous restons disponibles et ouverts à toute demande d'appui pour accompagner donc les autorités nationales sur cette affaire. Nous allons prendre une question à droite et puis nous allons revenir à gauche, ici à Kinshasa. Où est-ce qu'on a le micro, s'il vous plaît? Le micro, allez-y, voilà. Présentez-vous et puis posez une question.
Oui, je suis M. Alain Botoko. En fait, je suis reporter indépendant. Ma question s'adresse à Mme Florence. Madame, vous savez bien que les menaces climatiques sont énormes dans le pays et nous sommes parmi les 10 pays vulnérables. Et j'ai suivi avec intérêt ce qui s'est passé à Goma, où il y a eu une connexion entre les Nations Unies et le gouvernement provincial pour prévenir les éruptions au niveau du lac Kivu, en fait, du volcan Nyiragongo et l'autre qui est en mouvement, en activité. Est-ce que ce genre de coopération ne sont pas conseillés pour toute l'étendue du pays? Je ne suis pas en train ici de négliger les responsables congolais, mais en fait, c'est une interpellation parce qu'en fait, les menaces sont partout. Les inondations, les sécheresses, c'est partout. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de planifier ensemble avec les autorités pour pouvoir sauver un peu les vies humaines dans le futur? Une toute dernière question, c'est à M. Babara, si vous voulez bien. Est-ce que... C'est une question seulement, oui. Merci.
Bon, non, c'est bon. On va aller.
Donc, en effet, vous faites référence à une activité à Goma qui a été mise en œuvre par la MONUSCO, mais d'une manière plus générale, en effet, les Nations Unies travaillent actuellement avec le gouvernement congolais sur un plan visant à prévenir les effets des changements climatiques à tous les niveaux, comme vous l'avez dit, les inondations, les problèmes dans les forêts, etc. Et à ce sujet, le représentant de la FAO sera l'invité spécial de cette conférence de presse la semaine prochaine à l'occasion de la Journée internationale des forêts, et on sera au cœur du sujet, donc il va pouvoir vous détailler une partie des activités. Mais oui, nous travaillons ensemble et des activités sont menées, des projets sont menés entre les Nations Unies et le gouvernement de la RDC dans ce domaine de l'environnement.
Il y a beaucoup de mains levées. On va peut-être donner le micro à madame ici.
Sonia Rollet, RFI. J'aurais aimé savoir si vous pouviez confirmer que le patron de la MONUSCO venait d'arriver à Kananga, savoir exactement quel était l'objet de sa mission, et est-ce qu'il vient avec des enquêteurs ou une mission particulière après la disparition des deux experts là-bas.
Le patron de la MONUSCO?
Oui, Maman Sidikou, à Kananga.
Aujourd'hui?
Oui. Qui vient d'arriver à l'aéroport.
Maman Sidikou, en tant que premier responsable de la mission des Nations Unies ici en RDC, se rend un peu partout pour s'enquérir de la situation et voir comment appuyer effectivement ces différentes équipes au sol. C'est dans le cadre vraiment des visites routinières qu'il fait sur le terrain. C'est vrai que là, nous savons ce qui s'est passé sur le terrain. Nous avons besoin non seulement le personnel de la MONUSCO, le personnel... toutes les unités qui travaillent sur le terrain ont besoin de soutien. Il a besoin aussi de donner ses avis sur le déroulement des différentes recherches sur le terrain. Et je pense que c'est important qu'il aille directement lui-même être présent sur le lieu. Je crois que c'est très important pour lui et c'est ce qu'il a fait. Nous ne pouvons pas en dire beaucoup plus, mais c'est vraiment pour soutenir les équipes de la MONUSCO sur le terrain, et puis apporter son soutien, sa reconnaissance pour le travail qui est fait sur le terrain, et puis appuyer les recherches qui se font, qui continuent à se dérouler sur le terrain. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette question. Nous allons rester peut-être ici avant de repartir à Goma. Nous allons mettre le micro un peu au fond et ensuite présentez-vous.
Oui, merci Josué Mfoutila pour les comptes des Siloé Télévision. Nous avons appris l'augmentation des casques bleus en RDC, une démarche envisagée par Antonio Guterres. Notre rédaction a pris les soins de pouvoir vous appeler personnellement et dans votre intervention, vous avez dit que c'est un document piqué par l'agence française, l'agence France Presse. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours cette information, c'est une démarche envisagée par Antonio Guterres ou ce sont des documents qui relèvent jusque-là des, comment dirais-je, d'un arrangement particulier au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies? Juste avoir la confirmation par rapport à ces documents.
Je crois que j'ai été clair dans le... Au début de la conférence de presse, j'en ai parlé de façon très claire et précise. C'est un document qui a été remis vendredi par le secrétaire général des Nations Unies au Conseil de sécurité. Et le document était sous embargo. Et l'embargo durait 5 jours. Aujourd'hui, le document est public et disponible sur le site web des Nations Unies et même sur le site web de la MONUSCO. Et d'ailleurs, à la fin de cette conférence de presse, nous allons vous distribuer aussi ce rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la MONUSCO. Donc, c'est un document qui est rendu public maintenant. Alors, que dit ce rapport dans la partie que vous évoquez? Le rapport ne parle pas d'augmentation de troupes de la MONUSCO, non. Il parle d'un besoin de renforcer la présence policière due à la violence que nous avons constatée, non seulement dans certaines localités, notamment Kananga et Lubumbashi. Donc il veut renforcer la présence de la police des Nations Unies là, dans ces localités-là. Et en même temps, le secrétaire général dit dans ce même rapport que, au vu d'une reconfiguration de la force qui va la rendre plus mobile, plus agile, beaucoup plus, j'allais dire, professionnelle. Cette force pourrait donc se déplacer beaucoup plus rapidement. Il est entrevu, et ça depuis de longues dates, une réduction, une diminution de cette force militaire. Et au total, le secrétaire général dit dans ce rapport, et je vous invite d'ailleurs à le lire, que en tout, sur l'ensemble du pays, le nombre des casques bleus ne va pas augmenter. Donc il y aura zéro augmentation. On va juste faire un ajustement entre force policière qui peut effectivement contrôler les foules en cas de manifestation plutôt que l'armée. L'armée n'est pas faite pour le contrôle des foules ou des manifestations. Et c'est pour cela qu'il y a cette, j'allais dire, ce jeu un peu de entre les troupes policières et militaires pour avoir justement les éléments que nous voulons sur le terrain. Vraiment, c'est de ça qu'il s'agit, non d'une augmentation des nombres de casques bleus. Il n'en est pas question. Nous allons repartir avec votre permission à Goma pour prendre peut-être deux questions à Goma. Goma, s'il vous plaît, c'est à vous.
Merci. Touvé Oundi de la RTNC. Je m'adresse à Rosemarie Aranaz. La dernière fois, vous avez publié un rapport que le ministre Lambert Mende a jugé des non fondés. Venait de publier un rapport qui dit droit à la liberté et sécurité des personnes, plus ou moins 48% attribués aux agents étatiques. Concrètement, le BCNUDH ne veut pas qu'on arrête les personnes en RDC pour des faits commis, ou vous avez une autre lecture par rapport à cette privation de droit à la liberté et sécurité des personnes?
Ça, c'est une question, ou vous avez une opinion des droits de l'homme? Je dis ça parce que nous sommes clairs quand nous pensons qu'il faut respecter la loi. Mais il y a une chose qui s'appelle les arrestations arbitraires. Ça veut dire quand il n'y en a pas de délit flagrant et aussi quand il n'y en a pas de mandat d'arrêt judiciaire. Et c'est ça que nous avons documenté. Et ça, c'est la chiffre que j'ai présentée. Si vous avez d'autres questions, merci.
Goma, on prend encore une autre question à Goma.
Merci, Diadoné Mouchoko de la RTNC. En fait, il y a déjà une jurisprudence déjà faite par le droit de l'homme de la MONUSCO en facilitant l'enrôlement dans les prisons telles qu'à Kalemie et ailleurs. Est-ce que cela est envisagé aussi à Goma où, sans peur d'être contredit, trois quarts de ceux qui sont dans la prison actuellement ont droit à obtenir cette carte? Alors, qu'est-ce qui est envisagé?
Peut-être que Florence, qui est la spécialiste élection du groupe des Nations Unies en communication, pourrait nous... Nous avons effectivement, au cours de cette conférence de presse, évoqué le fait que la section d'appui à la justice et à l'administration pénitentiaire avait facilité l'enrôlement de détenus dans la prison de Kalemie. C'est une éventualité, on peut la faire ailleurs ou pas?
Oui, oui, tout à fait. Je pense que ce sont des initiatives qui sont prises au niveau local, là où la MONUSCO et les Nations Unies sont présents. Ça n'entre pas complètement dans le cœur du mandat, mais évidemment, tout ce que nous pouvons faire pour faciliter l'enrôlement et surtout pour nous assurer que personne ne sera mis de côté dans cet enrôlement, tout ce que nous pouvons faire, nous le ferons.
Merci. Peut-être que nous allons rester à Goma pour prendre une dernière question avant de revenir ici. Goma, s'il vous plaît.
Oui, c'est M. Roberto Mouzo Amelimani. Ma question s'adresse à M. Charles Bambara. Et pour laisser le gouvernement faire son travail, M. Charles Bambara, est-ce que le porte-parole a tort de dire que ces deux agents experts ne sont pas des agents de la MONUSCO? Et pour vous de la MONUSCO, il faut combien de temps pour savoir que quelqu'un travaille en collaboration avec vous? Merci.
C'est lié à la situation à Kananga, vous dites, les disparitions? Oui, bon, nous avons dit très clairement qu'il s'agit des deux membres du groupe des experts des Nations Unies sur la RDC qui sont liés au comité du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc, ce sont des agents des Nations Unies, c'est un point. Donc qu'ils appartiennent oui ou non à la MONUSCO, leur titre est vraiment très clair, ce sont des agents du système des Nations Unies, je crois que ça devrait vous suffire. Et j'ai insisté sur le fait qu'ils n'étaient pas seuls. Ils étaient accompagnés par leur interprète et puis trois autres accompagnateurs qui étaient des conducteurs de mototaxi. Et notre action, l'action donc des Nations Unies, de la MONUSCO et de toutes les forces de sécurité présentes sur le terrain, c'est de rechercher toutes ces personnes-là. Nous ne recherchons pas seulement, uniquement les agents du système des Nations Unies, nous recherchons tous ceux qui sont portés disparus. Voilà qui est clair et nous revenons ici à Kinshasa pour prendre une question à droite.
Donc,
Allez-y.
Oui, merci. Théodore Gandou pour les comptes de Télé 7. Ma question s'adresse à José Maria Aranaz. Chaque mois, vous publiez vos rapports et aujourd'hui, 48% des violations causées par les agents étatiques. Et dans chaque rapport, sont toujours les agents étatiques qui remontent avec un grand pourcentage. Et qu'est-ce que vous, Bureau conjoint des Nations Unies, vous faites concrètement avec les autorités congolaises pour arriver à réduire cette tendance? Parce qu'il semble que chaque fois que vous publiez les rapports, le gouvernement le rejette. C'est comme si vous les faites de manière unilatérale ou vous ne vous concertez pas avec les autorités congolaises pour arriver à tirer au clair les faits que vous découvrez dans vos enquêtes. Parce que les autorités sont sur place en Kinshasa. Pourquoi ne pas les impliquer par rapport à ces faits et pour réduire cette tendance, au lieu que chaque mois qu'il y ait toujours tendance à la hausse des cas de violations commises par les agents étatiques.
Oui, merci beaucoup. Toujours on publie les rapports et toujours on a la question de quelle est l'interaction, le dialogue avec les autorités. Toute l'information qui a été publiée a été partagée avec les autorités. J'ai déjà expliqué beaucoup de fois qu'il y a une lettre plus détaillée avec les cas et l'information qui a été partagée avec 18 autorités nationales, même administratives, sécuritaires et judiciaires pour leur action. Ils sont 18. Non, je pense que ce mois c'est 19 parce qu'il y a aussi des autorités diplomatiques même à Genève et à New York pour leur action. Nous avons une très bonne relation avec les auditeurs militaires et nous donnons l'appui aux enquêtes et aux efforts à la lutte contre l'impunité. Et je peux vous présenter les chiffres aussi des processus que nous savons avec qui que nous donnons l'appui. On m'a dit qu'ils sont déjà 27 autorités, pas 19, 27 autorités qui ont partagé l'information avec. C'est moi, le pourcentage de violations commises par les agents étatiques a été réduit par rapport du mois de janvier. C'est 48. Le mois passé, je pense, c'est 52, 53. L'autre chose, hier, j'étais avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. On a parlé beaucoup de comment est-ce qu'on peut améliorer les méthodes de dialogue et l'effectivité de ces dialogues. Et aussi quels sont les besoins en matière de capacités. C'est pour ça, à la fin de la note, j'ai évoqué aussi 12 activités de formation ou bien vulgarisation, sensibilisation en matière de droits de l'homme. Nous travaillons ici pour le renforcement des capacités. Ça veut dire, par exemple, pas seulement des activités des autorités militaires ou de la PNC. Dans les mois passés, je pense qu'il y avait au moins 2-3 ateliers de formation avec la police nationale en matière de violence sexuelle ou de liberté publique. Mais aussi, nous donnons l'appui aux enquêtes judiciaires et aux enquêtes foraines. Je laisse la réponse là-bas. Ouais.
Voilà, merci donc à José Maria. Je vois que Radio Capi va continuer sa programmation. Nous, on va peut-être prendre 2 ou 3 questions ici avant de mettre fin à cette conférence de presse. Je crois qu'il y avait une demande au fond, ou peut-être, oui. Est-ce qu'on peut amener le micro au fond de la salle? Je vois, il y a plusieurs bras, mais hélas, on ne peut pas faire 2 heures de conférence de presse.
Merci, allez-y, c'est Aline Engwe pour le compte de politico.cd. Aujourd'hui, tous les analystes déplorent l'immoralité de notre classe politique. La MONUSCO a un mandat de bons offices. Est-ce que vous avez déjà établi un plan pour essayer un peu de ramener les uns et les autres sur une ligne, sur une table, pour qu'ils puissent s'entendre, enfin que pour une bonne application de l'accord du 31 décembre. Merci.
J'avoue que c'est ce que le représentant du secrétaire général en RDC fait depuis de longs mois. ces bons offices sont plus que jamais activés. Ils rencontrent beaucoup de gens de toutes les factions politiques d'ailleurs dans le pays. Et encore cette semaine, il en a rencontré beaucoup. Je vois de temps en temps son agenda. Je peux vous certifier que d'ici la fin de la semaine, il rencontrera d'autres acteurs politiques. Et l'essentiel, c'est vraiment de les amener à se mettre autour de la table pour faire avancer le processus électoral. Vous savez qu'il y a cette échéance prévue par l'accord de la CENCO qui dit qu'à la fin de cette année, on devrait pouvoir avoir les élections, et on le souhaite en tout cas. Les bons offices du représentant spécial vont dans ce sens-là, c'est ce que je peux vous assurer. On va peut-être prendre, peut-être à la porte ici, je voyais des... donner le micro au monsieur. Présentez-vous et puis une question, s'il vous plaît.
Merci beaucoup. Joël Diawa, Wapicom Télévision. Dernièrement, on a suivi que une frange de la société civile est en mission dans l'Occident. Et cette frange de la société civile a rencontré les représentants des pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et à l'issue de leurs échanges, il ressort que les Nations Unies envisageraient des sanctions ciblées à l'encontre de ceux qui empêchent la mise en œuvre de l'accord du 31. Est-ce que pouvez-vous nous confirmer cette information?
Je ne peux pas la confirmer, je ne suis pas au courant, je ne sais pas de quelle société civile vous parlez, je ne sais pas où ils se sont rencontrés. Nous n'avons aucune information à notre niveau. Peut-être que si, dans les jours qui viennent, on a cette information, on la partagera avec vous. C'est la fin de cette conférence de presse. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine. Merci.